Vous écoutez
RMC.
On va rester sur la progression par rapport à ce qu'ils ont fait dernièrement en championnat. Mais je pense qu'il faut être réaliste.
Regardez les stats. À un moment donné, le hasard, ça arrive jamais par hasard.
Quand je dis que l'entraîneur et le mari, c'est le dernier à savoir la chose, c'est vrai. Si elle est à les cornes, comment ça fait? Si elle est cocu, c'est le dernier à savoir la chose.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After continue comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur Afterfoot TV. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir pour le débrief de la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Maxime Chano est là également, Maxime.
Salut à tous.
Maxime qui a eu le privilège d'affronter l'équipe de France.
Bien sûr.
Mais pas de la battre en revanche avec le Luxembourg.
Ah bon, on peut pas tout faire.
Pas tout faire. C'est déjà beau, hein. Attention. Jean-Louis Tour est avec nous en direct de la Beaujoire où ce match s'est joué. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
La défaite donc de l'équipe de France, je crois que Jean-Louis l'a rappelé en fin de soirée, en fin de match, c'est la première de l'équipe de France sous Deschamps en préparation. Voilà, en 14.
De toute façon, une question va vite se poser. Hein. Une question va vite se poser.
Quel intérêt ce match à analyser, c'est ça?
Première compétition.
Quel enseignement en tirer?
Première compétition officielle de Jean-Louis.
Ah,
ça démarre mal.
Excuse-moi, Jeannot était invaincu en prépa.
Jeannot était invaincu.
Excusez-moi,
des belles compètes.
Ouais.
Et
ma première Ligue des Champions. Et ma première Ligue des Champions.
Non, c'est les Bleus. On parle des Bleus là.
Ah d'accord.
Pas les dossiers. Il y a différents dossiers sur le bureau. J'ai peur que tu sois.
Je te laisse pas avoir, Jean-Louis.
Je suis pas inquiet. Écoute,
on va voir.
Mais je suis un peu moins serein qu'il y a deux heures. Ah bon? Ah, intéressant. Ah. Intéressant. C'est la grande question générale après ce genre de match. Quel enseignement tirer avec un tel turnover ce soir? 10 remplacements sur le terrain. Ce mec Maignan n'est pas sorti. On va débriefer ça ensemble avec vous au 32-16.
Sur le pas beaucoup.
Ah ouais?
Ou le pas grand chose.
Ah,
ce que vous avez dit, pas
mais
beaucoup.
On va en parler.
Moi, je dis pas grand chose.
Moi, je sais pas si c'est des enseignements, mais on aura des. En tout cas. Pour moi, il y a des réflexions à mener.
D'accord. T'as pas de réponse, t'as des réflexions à mener. C'est intéressant. On est ensemble jusqu'à minuit. Vous nous appelez au 32-16. On fera l'évaluation, bien sûr, de l'équipe de France. On parlera de la Côte d'Ivoire également. Que peut-elle espérer en fin d'after 32-16 ouvert hein, pour vous, supporters français, supporters ivoiriens. Et je vous rappelle, avant les 3 points, que dimanche, l'after sera déjà en mode Coupe du Monde à Dakar, Sénégal. Émission consacrée à l'adversaire de l'équipe de France sur ce mondial en phase de groupe dès 18h heure locale. Donc, si vous êtes sur place, rendez-vous à l'Institut français, c'est libre, c'est gratuit. Gilbert sera là, Souleymane Diawara sera là, Elton Mokolo également seront sur place. Tout ça donc à 8 jours du match d'ouverture de l'équipe de France, du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Donc soyez au rendez-vous, Institut français, dimanche soir, 18h-20h sur place, 20h-22h sur RMC en direct. C'est parti, jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Max, tu commences.
Bon, je vais essayer d'être dans les temps. Alors, je commence à l'envers, moi, en parlant de la seconde période des Bleus, parce que c'est à ce moment-là, pour moi, que le match bascule. On a vu qu'avec l'entrée des remplaçants, l'équipe a perdu en qualité dans le jeu et a souffert face au bloc bas ivoirien. J'ai envie de mettre en garde les Français parce que c'est probablement le type de scénario qui attend les Bleus lors de ce mondial. Après, ça me permet de justement transitionner sur mon deuxième point et de mettre en avant que si les Bleus veulent aller loin dans cette Coupe du Monde, il va falloir qu'ils s'appuient sur leur cadre. Absent ce soir, on le répète. Je serais pas étonné d'ailleurs de voir Didier Deschamps revenir à un 4-3-3. Et mon dernier point, c'est le problème des latéraux qui, de mon avis, reste évident, surtout à gauche. J'ai trouvé un Théo Hernandez qui nous a montré ses limites et qui apparaît comme le grand perdant de ce soir.
3 points de Maxime Daniel.
Dans les temps.
Efficace. Le premier point, c'est les questions qu'il va falloir se poser sur comment on y va. Quel genre de compo. Et ce soir, il y a des questions là-dessus, alors que le chemin semblait devoir être tracé. Mon point 2, c'est avec qui, quelles individualités.
Oui.
Et le point 3, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça, comment dire, fort en symbole. Guéladoué a chanté les deux hymnes. Et j'ai trouvé ça fantastique.
Ah, t'as raison.
J'ai trouvé ça fantastique.
Ouais, c'est merveilleux.
Ouais,
c'est
vrai. Je trouve que ça envoie un message que j'adore. Que ça dit ce qu'est la binationalité. Avoir deux pays, et avoir deux pays, ça ne veut pas dire qu'on en aime un plus que l'autre.
Je ne sais pas comment en France ça aurait réagi, en sens inverse. Hein. Sur un joueur français qui aurait chanté deux hymnes, dans l'air du temps, je pense que ça aurait fait débat sur pas mal de chaînes, pas mal de médias également.
Et bien, j'aurais trouvé dans les deux cas que critiquer ça, c'est absurde.
Mais oui,
que je trouve ça fantastique qu'il l'ait fait. que ça envoie un très bon message et que oui, on a le droit d'aimer deux pays parce que quand on
est deux cultures,
c'est malheureusement le sentiment que peuvent ressentir les binationaux parce que les autres ne savent pas.
Max avait chanté la Marseillaise quand il a monté l'équipe de France.
Je la connais pas. Non, mais si je l'avais connu, ouais, peut-être qu'en effet, je l'aurais.
Non, mais j'ai trouvé que c'est, non, c'était fort. Son frère joue pour l'équipe de France. Lui joue pour la Côte d'Ivoire. Il aurait
été d'ailleurs excellent ce soir.
Pour, alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est.
C'est les trois points encore ou dis-moi. On essaye, on est sorti.
On sort des trois points.
On sort les trois points. T'as le bout.
On va arriver au football tout de suite. Juste poser la question. J'aimerais bien.
Je rappelle que Jean-Louis est à la Beaujoire également.
J'aimerais avoir un journaliste ivoirien pour qu'il me donne son avis sur comment ça a été vu là-bas et comment c'est vécu là-bas. Voilà. Bref, alors, passons.
Attends, au but de France, ce que racontait Fabrice Hawkins pendant le match, c'est que certains se sont dit qu'il avait choisi la Côte d'Ivoire peut-être un peu vite et qu'il aurait peut-être eu le niveau pour aller en équipe de France.
C'est toujours le problème des binationaux.
Ça peut être, voilà, ça, c'est un problème classique des binationaux. Peu importe, voilà. Il porte le maillot de la Côte d'Ivoire, il a été très bon ce soir en plus. Moi, j'ai trouvé que la charge symbolique de son acte était vraiment, j'ai envie de le féliciter.
C'est vrai.
De toute façon, la famille, que ce soit Désiré ou lui, c'est des gars très bien et je trouve ce geste très fort. Bref, voilà, passons là-dessus. Maintenant, j'aimerais qu'en Côte d'Ivoire, on trouve ça aussi bien que moi, je trouve que c'est bien.
Bon, allons sur le match.
Parce que les relous, il y en a dans tous les pays.
Allons sur le match.
Alors, pour les questions.
Avec Jean-Louis, Max et Daniel, 32-16 ouvert, je vous rappelle. Vas-y.
Parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à une défaite ce soir. Et je m'attendais globalement à dire quand tu fais un match amical avec 10 changements, que c'est une sorte de match d'entraînement grand format. Ce sera plus lundi le vrai match d'entraînement. Le premier, quand il y a un doublé de matchs amicaux, souvent le premier est plus important que le deuxième. Et puis surtout, la sélection est un mondialiste et c'est une sélection quand même qui a beaucoup de qualité et qui est une vraie bonne sélection. Donc il y avait un vrai adversaire en face. Et écoute, le premier message qu'a envoyé par Deschamps, on est bien d'accord que c'est oui messieurs, je propose autre chose, j'ai changé. Ça n'était pas une blague depuis le temps qu'on en parlait, depuis les derniers matchs qu'il y a eu. Oui, nous allons jouer à 4 devant. Oui, nous allons jouer avec un meneur, plus 3 attaquants. Et ça, ne serait-ce que ça, comme message qui se confirme dans le premier match de préparation, je trouve que c'est un message fort. Sauf qu'au moment où il t'envoie ce message fort, que tu as une première période où l'équipe de France a été entreprenante, n'est-ce pas ? On est d'accord pour dire qu'elle a été entreprenante.
Elle a
essayé de faire le jeu, de mieux tourner le ballon. On a vu,
la première mi-temps est bonne.
Oui. Voilà, il faudra en reparler, mais on a vu un festival Cherki, mais il faudra savoir jusqu'à quel niveau, à quel degré on va lui donner les clés. Parce que
qu'est-ce que tu entends par festival
là, là, tu penses qu'il a
festival pris, quoi. Il y a ce but qui est somptueux, on va en parler.
Il a pris les clés. Il a pris les clés.
Ah, t'as sentiment là.
Il a touché le ballon. On l'a cherché. Il a cherché à orienter le jeu et il a montré ses qualités techniques et c'est ce qu'on appelle le petit génie du joueur technique du 10 comme lui.
D'accord.
Voilà. Et alors... ça, on n'avait pas l'habitude. Et excusez-moi, mais quand est-ce qu'en bleu depuis quoi? Depuis 20, 25 ans, on n'avait pas eu de joueurs comme ça pour mener le jeu des Bleus.
Qu'il est compatible.
C'était pas la tradition des Champs.
Tu remontes un peu loin.
On a eu, c'est depuis Zidane. Qui t'a donné
2006, t'as raison. Ouais,
on n'a pas d'autres joueurs. Donc là, tu le mets 10 et tous les ballons passaient par lui. Et en plus, il t'a régalé de son fameux petit geste, l'espèce de petit lob pour centrer, plus son but, plus j'ose des choses, je rate des choses.
J'ai beaucoup raté.
J'assume de rater des choses. Mais non, mais ça veut dire, il va falloir que tu l'acceptes d'un joueur comme ça.
Évidemment, déchets techniques, ça arrive à partir du moment que tu oses.
De ses choix où ils vont en faire. Ouais. Parce qu'en première mi-temps, on a tous vu qu'il doit frapper directement sur la passe en retrait.
Là, tu parles comme un entraîneur de Ligue 1 ou un entraîneur de championnat. Où est-ce que tu peux assumer le fait qu'il va perdre des ballons? Tu peux pas te permettre en Coupe du Monde. T'as 3 matchs. Si tu commences à perdre des ballons sur le premier match,
j'ai posé des questions.
C'est pas festival.
C'est pas festival. Moi, j'en suis là.
J'ai posé des questions. T'apportes des réponses. Si les réponses que t'es en train d'apporter mûrissent comme des conclusions pour Deschamps. En gros, c'est pas ma nature, je l'ai jamais fait. Pourquoi je vais donner les clés à un 10, à un mec qui est capable de faire du génie et de pas frapper quand il doit frapper et surtout alors que j'ai fait une bonne première mi-temps et que j'avais en face une équipe qui est typiquement l'équipe qui en contre peut te faire mal parce qu'elle est forte en percussion, parce qu'elle est véloce, parce qu'elle a des mecs qui sont capables d'éliminer
en un contre.
Et ça, Deschamps, il ne supporte pas cette forme de déséquilibre. Et il suffit que Tchouaméni cague un ballon, que ce soit pas récupéré par le défenseur, ou que le latéral, tu l'as dit tout à l'heure, soit pas forcément bon et tout. Est-ce que ce risque-là, c'est ça mes questions. Est-ce que, alors que ça n'est pas
Jean-Louis,
sa nature, alors, est-ce que au moment où tu fais un match de prépa et que tu le perds, est-ce qu'il va contrôler
d'année justement non,
voilà, moi, Jean-Louis, vas-y.
Moi, je pense que ces questions sont bien sûr légitimes, mais je pense qu'il faudra attendre.
Il n'a pas touché du doigt le problème. Attends. Il l'a touché ce soir.
Bah non, je pense qu'il l'a pas encore touché le problème. Il le touchera contre le Sénégal parce que là, je pense, hein, je peux me tromper, mais qu'il va se dire que sur la première période, ça a fonctionné. Les quatre offensives, ça a fonctionné et il y a eu très peu de dangers concédés à l'équipe de Côte d'Ivoire.
Attends, laisse-moi finir.
En première période, je suis pas d'accord. Il n'y a pas eu grand chose. En revanche, en deuxième, c'est là où il y a eu le danger. Mais en deuxième, il sort un leader par ligne. Il sort Mbappé, il sort Tchouaméni, il sort Upamecano, peut-être le meilleur par ligne. Donc forcément, bah, le niveau baisse. Et ce sera l'autre enseignement, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas te blesser dans cette équipe de France.
Ah ouais, bah,
et qu'on a un 11 exceptionnel, mais il y a un gap énorme avec le reste. Et on ajoute aussi une absence. Il n'y a pas Doué, il n'y a pas Dembélé.
Qui tu enfonces dans les joueurs
dont
tu parles ?
Ceux qui sont rentrants en deuxième.
Dans les rentrants. Mais non, mais déjà. Marcus Thuram,
est-ce que ça ne tient pas autant au bordel qui est occasionné par une tonne de changements qu'au véritable niveau des joueurs?
Ouais, non, mais aujourd'hui, tu es dans une compétition, ils doivent être prêts maintenant, Daniel. Mais j'entends ce que tu veux dire.
Ils ne sont pas prêts. Mais quand tu fais une tonne de changements, c'est difficile de remettre en route le truc.
Non, mais alors,
et moi, je te dis, Daniel, c'est comme il a parlé du Sénégal, Jean-Louis. Le Sénégal, c'est plus fort que la Côte d'Ivoire. Mmh. Et dans ce jeu de transition rapide, ils ont beaucoup plus d'atouts.
Bien sûr, ça va.
Donc moi, si je suis Deschamps et que ma culture, ma nature, mon ADN, ça n'a jamais été de jouer comme ça. Est-ce que moi, dans ma tête, je me dis, je suis prêt à gagner 3-2 un match?
Pas des premiers matchs de prépa,
non.
Daniel.
Non.
Parce que là, contre le Sénégal, si tu joues comme ça, faut accepter l'idée que tu puisses.
Il va devoir l'analyser,
c'est pas super.
C'est compliqué de tirer des enseignements. Vous l'avez dit, il y avait énormément d'absents. Alors, moi, je comprends pas le débat à Cherki. On reviendra un peu plus tard dessus.
Daniel, on fera après la pause. Vas-y.
C'est important. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça remet un petit peu en perspective, finalement, les matchs du mois de mars. Quand on a gonflé cette équipe de France, ultra favori, notre quatuor de devant, il est exceptionnel. On va gagner tous les matchs, parce que je sais ce que vous allez me dire, mais l'opinion publique pensait exactement ça. Aujourd'hui, peut-être que cette défaite, elle va faire du bien à tout le monde en se disant la Coupe du Monde, il y a des équipes de qualité, ça va être compliqué. Et là, on est encore sur un match amical, hein, au passage. Hein. Voilà. Ouais. La bonne chose de ce soir, et tu l'as dit très justement, Daniel, c'est qu'on va se rapprocher très, très rapidement un petit peu du style sénégalais. Et je suis d'accord avec toi, le Sénégal est bien plus fort que la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une réalité, c'est que si tu n'as pas tes quatre titulaires, tu es ton quatuor de devant. Donc c'est pour ça, mettre en considération Cherki actuellement, si Désiré Doué était là, Cherki, il n'est pas dans cette équipe, on est d'accord?
Mais je ne sais pas.
Voilà. Ah bon?
Je ne sais pas.
Quand tu compares ce qui s'est passé sur les dernières sorties en équipe de France.
Le Doué du PSG, je ne l'ai jamais vu en bleu. Doué, il n'est pas titulaire en bleu, pour moi, il ne l'a jamais été.
Il n'a jamais été.
Il n'a jamais été titulaire. Il ne prétend pas un poste de titulaire. Je ne te dis pas qu'il ne doit pas l'être, attention. Mais je ne l'ai jamais vu.
Moi, ça me paraît clair.
Le problème, c'est qu'on arrive en équipe de France.
Cherki a été décisif. Excuse-moi, il y a eu un peu trop de.
En fait, on va arriver à la Coupe du Monde. On arrive à la Coupe du Monde avec des joueurs qui sont des bombes atomiques en club, mais qui n'ont aucune référence en bleu.
Ah, mais c'est comme tout.
Doué, Dembélé, Olysée.
Oh, t'es dur. Non, tu parles de match référence, mais qu'est-ce que j'appelle par référence?
Cherki, ils n'ont pas de référence en bleu.
Ouais, mais ça, c'est
dans la façon de jouer ensemble.
Mais on l'a
vu jouer. En plus, on sait même pas comment on va jouer. On sait même pas comment on jouera.
Ah, donc là, t'es incapable de dire comment Didier Deschamps va placer son équipe. Ah, ouais, ça me paraît clair, non?
Si, alors attends, excuse-moi, pardon, je me reprends. Vu le démarrage ce soir, la compo de départ, j'ai l'impression qu'effectivement, il est converti totalement au
4-2-3.
Ah oui, sur le système, bien sûr.
Sur le système.
On va prendre ce système-là avec qui? Et surtout, ça présente des risques que Deschamps, pour moi, dans son ADN, n'est pas capable d'assumer. Donc, il l'a jamais fait.
Là, ce soir, tu penses qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points, qui vont remettre peut-être en cause les idées qu'avait Didier Deschamps après le match du Brésil.
C'était quoi les idées?
Ça me paraît clair. Désiré Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé. Enfin, aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau.
On fait une pause. Le Droche, exactement, Maxime. Daniel, Jean-Louis aussi, 32-16 ouvert. Vous nous appelez pour parler de ça.
Cherki en joker?
Ryan Cherki, vous avez le tiroir Ryan Cherki, on va en parler aussi. Le considérez-vous comme un titulaire à part entière dans cette équipe ou pas? En tout cas, est-ce qu'il doit l'être? Êtes-vous inquiet après cette défaite? Ou voyez-vous des motifs d'inquiétude de 32-16? Vous nous appelez, bien sûr. Frédéric sera avec nous dans un instant. Jean-Louis est à la Beaujoire au stade. On prolonge le débrief après la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire à la Beaujoire. De Buzyn, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Maxime Chano, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour à la Beaujoire, où l'équipe de France a été battue de 2-1 par la Côte d'Ivoire. Aurélien Tchouaméni en direct.
À quel point le travail physique que vous avez fait là ces derniers jours, ça impacte Ah, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. On a très bien travaillé cette semaine. Après, comme je vous dis, on a fait des bonnes choses. On s'est fait cueillir à froid sur deux occasions qu'ils ont eues. Mais il n'y a pas tout à jeter. J'aurais eu le même discours si on avait fait un excellent match. Ça n'aurait pas eu une vraie importance pour le premier match contre le Sénégal. Donc, il y a un autre match de préparation. On sera encore meilleur. Et comme je l'ai dit, on va monter en puissance.
Qu'est-ce que vous retenez positif?
Aurélien de Chemigny en direct.
Je pense qu'il y a eu des bonnes séquences de jeu. Que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Comme je l'ai dit, il n'y a pas tout à jeter. Je parlais avec Yaya Fofana, que je connais depuis longtemps, et il m'a dit que voilà, on était une équipe qui se créait pas mal d'occasions. Donc voilà, ça c'est positif. Après, il va falloir qu'on soit encore plus efficace, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement, pour atteindre le maximum de notre potentiel.
Voilà, Aurélien de Chemigny, cherche pas d'excuses. C'est vrai qu'il y a une grosse charge de travail actuellement à l'entraînement.
Ça à prendre en considération, c'est vrai. Il ne se cache pas derrière ça, mais moi j'aime bien quand il dit qu'il n'y a pas tout à jeter. En effet, il y a quand même des bonnes choses. Cette première mi-temps face à un bloc bas, on sait que c'est jamais facile. Je l'ai dans les trois points, tu sais, c'est ce genre de scénario, tu vas l'avoir assez souvent pendant cette Coupe du Monde. Donc il faut que les Français soient prêts, en tout cas convaincus qu'ils sont en mesure de pouvoir justement jouer contre ces blocs bas. Je fais la comparaison avec la Côte d'Ivoire, la Sénégal et le Sénégal. On risque de voir à peu près le même scénario. J'ai beaucoup aimé un petit peu les permutations entre Mbappé et Thuram, même si parfois j'ai le sentiment qu'ils sont un peu marchés dessus. On avait tendance à un moment donné, même en seconde mi-temps, de voir quand Mateta est rentré aussi, d'avoir les quatre offensifs presque dans l'axe de la défense, l'axe de l'attaque, pardon. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a eu des bonnes choses. J'ai beaucoup aimé Upamecano, qui pour moi a fait un superbe match. Il a éteint les débuts d'incendie. Konaté a été correct aussi. Après, bon, il y a ces fameux latéraux qui pour moi sont la grosse problématique et point de vue qualitatif de cette équipe de France, mais je réitère mon analyse et je suis d'accord avec Tchouaméni sur le fait qu'il y avait quand même quelques bonnes choses ce soir, même si éventuellement...
Oui, il y a eu des bonnes choses. Rapidement, le sélectionneur Didier Deschamps qui vient d'arriver en conférence de presse, on va écouter sa première réponse.
Bonsoir Didier.
Et la question.
Bonsoir. Pour ce que vous étiez en mars à Washington, vous aviez dit qu'il fallait parfois trouver les petits trucs à redire à l'équipe de France, qu'il ne fallait pas s'enflammer. Et ce soir, on a vu une excellente équipe de Côte d'Ivoire, on a vu une équipe de France en rodage, mais c'est quand même une défaite. Quels enseignements vous tirez de ce match?
Oui, même si on a bien maîtrisé notre première mi-temps, la deuxième mi-temps, ça a été plus difficile.
Ah bon, pour nous,
on va brancher le micro surtout.
On vous dira, c'est quelque chose d'important.
Ça, c'est Najib qui n'arrive pas à brancher le micro.
Non, mais Najib, il est pour rien, il est au troisième étage. Il n'est pas à la Beaujoire, Najib. Ça vient pas d'ici, ça vient de la Beaujoire, je pense. Ce sont les équipes de Jean-Louis Tour, peut-être. Et oui, ce sont les équipes
peut-être
de Jean-Louis Tour.
La Beaujoire, il n'y a pas grand chose qui a marché cette année.
Pas grand chose qui a marché.
Est-ce qu'on a vu Kita à la Beaujoire? Est-ce qu'il était là?
Non, mais Kita, il vient plus à la Beaujoire. C'est fini. Il vient plus à la Beaujoire.
Il
est dans sa clinique, là.
Je vais accueillir Frédéric au 32-16.
Tu devrais aller faire un tour, là, pour les soucis.
Salut, Frédéric.
Bonsoir les amis.
Bienvenue de l'after, on va t'accueillir. Bon, est-ce que t'es inquiet toi ou pas du tout? Tu vois aucun motif d'inquiétude là?
Bon, je suis inquiet pas depuis ce soir. Ça fait déjà quelques mois que je suis inquiet.
Ah bon?
Parce que on est bourré d'incertitudes. Je suis un peu d'accord avec Daniel quand il dit que on a des joueurs qui pour la plupart cartonnent en club et dès qu'ils arrivent en équipe de France, c'est un peu plus compliqué. Alors pas pour tout le monde, mais pour une partie, pour une poignée de joueurs.
Non, je sais pas, tu vois, je dirais pas que c'est compliqué. Je dirais que il y a juste des questions qui se posent, c'est qu'on ne sait pas si ces joueurs qui sont très forts en club peuvent reproduire en équipe de France dans des schémas de jeu qui sont différents, qui ne sont pas ceux dans lesquels ils évoluent normalement, dans des pressings très hauts, dans des grosses possessions de balles, dans des pressings contre pressings. Bon, évidemment là je pense au PSG et au Bayern puisque nos joueurs offensifs sont dans ces deux clubs là et ils arrivent en équipe de France, ils ne jouent pas dans les mêmes schémas, dans le bloc équipe ne joue pas de la même façon et en plus ils n'évoluent pas exactement dans les mêmes positions qu'ils occupent en club.
Moi je vous comprends pas, messieurs. Après le match, excuse-moi Jean-Louis, très rapidement, après le match contre le Brésil, j'avais le sentiment, tout le monde mettait la France sur le piédestal, c'était presque comme si la France avait déjà gagné cette Coupe du Monde, et là on est dans
mais
un...
Mais moi je te dis pas qu'ils sont pas encore favoris.
Non mais
je te dis que je veux juste comprendre
là,
comment on va jouer,
là on commence à se poser des questions, est-ce que
qualité,
la France est...
Non mais
c'est différent Daniel, là, il manque Ousmane Dembélé.
La question, non mais moi la question que je pose en fait c'est est-ce que Deschamps prend plus de risques à jouer comme ça qu'à faire ce qu'il a toujours fait? Oui. À savoir les quatre défenseurs.
Bon, on va y revenir à ça.
Encore une fois, je dis pas ce qui me plaît. Je dis pour gagner. Parce que quand tu travailles pas des systèmes, quand t'as pas l'habitude et tout, il dit lui-même qu'il a pas le temps avec des mecs parce qu'il les récupère pas tous. Mais tu mets tes trois milieux de terrain. Tchouaméni, Rabiot plus Kanté ou qui tu veux machin. Et devant, t'as tes trois gars qui sont un peu capables d'allumer n'importe quelle défense.
Olivier Dembélé,
les coupes du monde de Deschamps.
Bien sûr.
Mais alors, est-ce que t'as pas plus de chances d'avancer et d'aller au bout que de prendre un risque à tout changer comme il a pu
jouer l'analyse de Jean-Louis également.
Attention, je ne dis pas que c'est ce que j'aime.
Non, mais oui, je me mets dans
moi, je veux aussi les éléments, Jean-Louis, qui est sur l'équipe de France depuis plusieurs mois déjà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que sa nature peut revenir, tu penses, toi, pendant ce mondial? Non,
je me répète, mais à mon avis, ça peut pas arriver avant un accro contre le Sénégal. Je pense qu'il a travaillé ça depuis un an, ses quatre attaquants. Il a mis ça, quel que soit l'adversaire, que ce soit un petit adversaire, un gros adversaire. Dans les matchs qu'il a eu à faire. Alors après, c'est sûr que c'était des matchs de qualif.
Tu travailles jamais vraiment. Hein.
Mais alors, donc, dans ces cas-là, on arrive. Non, mais par contre, après, si je peux jamais enchaîner deux phrases, c'est pénible quand même. Donc, juste ce que je voulais dire, c'est que là où je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas de. On n'a pas à se dire. On a plein d'incertitudes avec l'équipe de France, puisque à chaque grande compète, on met de côté ce qui s'est passé avant. Ça a toujours été le cas avec Deschamps. Donc, ça va être une question d'état de forme, de est-ce que ça prend bien sur ce qu'il a envie de faire et tout. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'hésitera pas à tout abandonner en cours de route. Par contre, son idée de base, ce qu'il a en tête, la composition de sa liste avec beaucoup de joueurs offensifs, c'est pour arriver avec ses quatre attaquants. Ça, j'en suis convaincu.
Moi, je te pose la question, pourquoi d'après toi? Alors qu'il a tout le temps fait la même recette depuis 2012 et que
cette
recette
n'a pas marché à l'Euro.
Elle n'a pas marché au dernier Euro. Finale d'Euro 2016, victoire en 2018, finale en 2022. Pourquoi d'un coup il changerait sa recette?
Parce que je pense qu'à l'Euro, ça s'est pas bien passé.
Il a largement la matière pour faire la chose habituelle. Hein.
Non, oui, mais il n'avait pas autant d'éléments offensifs sur les compétitions précédentes.
Mais oui. Et alors, il a plus d'éléments pour la soupe, mais la soupe, il peut refaire la même.
Ah oui, non, mais ce qui est sûr, on sait qu'en règle générale, quand tu commences une compétition avec une équipe, tu le termines jamais
avec la même. Si tu donnes plein d'ingrédients à un cuistot, il ne sait pas cuisiner avec. Autant qu'il fasse la recette habituelle.
Ça va être la même chose avec le schéma tactique. Jean-Louis a tout à fait raison. Si jamais il y a un accro contre le Sénégal, Deschamps va revenir à quelque chose de très pragmatique avec trois milieux défensifs et hop, le quatrième
pas de suite, pas forcément contre l'Irak, peut-être contre la Norvège, mais on n'en est pas encore là. Frédéric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, sur le rôle d'un Cherki, par exemple?
L'Irak, même toi, tu peux jouer les gauches.
Est-ce que c'est un joueur que tu veux voir, toi? Les gars, vas-y, Frédéric.
Ouais, moi je trouve que Cherki a été encore une fois intéressant sur ce qu'il a montré, notamment en première, même s'il a fait un match globalement complet. C'est simple, c'est le joueur qui a été le plus recherché des joueurs de l'équipe de France durant la rencontre. C'est un garçon qui est capable quand même d'apporter des choses différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Je trouve qu'il arrive toujours à se hisser sur le terrain dans des petites positions relativement intéressantes pour mettre en danger les défenses. Alors après il y a une question qu'il va falloir se poser, c'est que si notre ami Monsieur Deschamps décide de le titulariser, qu'est-ce qu'on fait d'Ousmane Dembélé? Il y a une vraie question, c'est-à-dire que quelle est la composition, comment vous l'incluez dans l'ordre de départ avec
Ousmane Dembélé sera à droite, hein, de toute façon, voilà.
Ça changera pas grand-chose.
Déjà qu'on enlève Marcus Thuram quatre offensifs en fait, parce que lui je comprends pas qu'il joue autant depuis tant de temps en équipe de France.
Hein. Ouais. Ah, parce qu'à chaque fois en fait, il manque des gens quand il joue, et surtout le faire jouer dans cette position-là. Bon après attention, ils ont quand même beaucoup permuté. On a beaucoup vu
Mbappé surtout à gauche. Il faut accepter Marcus Thuram en neuf. Ils ont beaucoup fait ça
effectivement. Mbappé a pas vraiment été point de point.
Tout à fait.
Ouais. Donc d'ailleurs, quand j'ai vu Mbappé à de nombreuses reprises sur le côté gauche, je me suis dit, si on revenait à quelque chose de sensé, à savoir mettre Dembélé devant, Mbappé dans la place dans sa position de l'ancien
quelque
temps.
Quelque chose que tout le monde souhaite, quoi.
Voilà, moi dans sa position de l'ancien
ça faisait un moment,
temps.
Jean-Louis, qu'on avait vu Mbappé comme ça squatter le côté gauche de l'équipe de France, non?
Oui et non. Le fameux match contre le Brésil à Boston, ils échangent avec Ekitike beaucoup, où Mbappé vient à gauche et Ekitike est dans l'axe. Ouais. Donc je me suis dit à ce moment-là que Deschamps commençait à travailler ça. Si on rajoute Dembélé dans ces quatre-là à la place de Thuram, je sais pas si on peut faire les mêmes permutations et tout. Je le souhaite, hein, parce qu'avoir ces quatre-là ensemble, c'est hyper prometteur. Mais à voir si la mayonnaise peut prendre.
Attention, je pense que c'est très clair. On part avec un système et avec des joueurs en position, mais on a bien vu à quel point ça permute, en fait. Donc Mbappé commence dans l'axe, il finit à gauche. Dembélé, c'est pareil. Olise dans l'axe, finit à droite. Je veux dire, aujourd'hui, finalement, les positions de départ vont pas être celles qui vont être exactement suivies, entre guillemets, pendant le match. Après, ce qui est très important, c'est de trouver justement un équilibre. Justement pour ne pas créer un déséquilibre, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Avec le ballon, j'ai pas trop de soucis, même si c'est vrai que en règle générale, par rapport à Cherki, moi j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, mais il a eu tendance à un peu trop pas assez simplifier son jeu. Ça c'est une chose, mais c'est surtout le déséquilibre défensif. On connaît Didier Deschamps, on sait que tu gagnes une compétition non pas grâce à l'attaque mais grâce à la défense, et c'est vrai qu'en mettant Mbappé à gauche, je me pose des questions. Attention à pas créer justement un déséquilibre qui serait peut-être fatal pour l'équipe de France.
Merci Frédéric d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde. On t'accueille au 32-16. Dans un instant, on va faire une évaluation de cette équipe de France. Je le rappelle, battue par la Côte d'Ivoire de buts à 1. Première victoire de la Côte d'Ivoire dans son histoire face à l'équipe de France. Donc ça a du sens aussi à quelques jours du mondial pour les Ivoiriens. Et puis je vois, tiens, sachez également que l'Espagne a été accrochée par l'Irak un but partout avec un énorme turnover. Bien sûr, Yamal, vous le savez, est toujours en convalescence. Donc on a beaucoup fait tourner, mais l'Irak quand même accroche un match nul, miracle historique surtout, face aux champions d'Europe. On vient dans un instant, l'after continue avec Maxime Chano, avec Jean-Louis Tour à la Beaujoire et Daniel Riolo à mes côtés à Paris. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Maxime Chano est là, Daniel Riolo et Jean-Louis Tour également à l'after. Le dernier quart d'heure, la défaite de l'équipe de France de buts à 1 face à la Côte d'Ivoire. Évaluation les amis, allons-y. Hein. Qui vous a plu ce soir? Qui est votre taulier? Qui a marqué des points, si on peut le qualifier ainsi? Même si Deschamps a sûrement une idée, il l'a dit en conférence de presse précise de son 11. Il a bien dit ça Jean-Louis, hein, à part peut-être une interrogation ou deux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bah, les Parisiens qui n'ont pas joué du coup. Soir.
Parce que finalement, la compo, il annonce ce soir finalement du premier match contre le Sénégal. T'intègres les Parisiens et on les a. T'intègres également
et Saliba
en défense centrale à la place de Konaté.
Tu gardes Théo Hernandez à gauche?
Mais tiens,
ouais, c'est,
on parle,
c'est
une question, c'est toujours le même débat. Hein.
Hernandez,
là, on a compris que ce soir, il était titulaire.
Il partait titulaire,
mais il a quand même pas fait un très bon match.
Non.
Voilà. Donc, est-ce que ce soir,
ce qu'il fait dans le groupe, moi, à part s'il vient avec ses ballons et tout ça. Pour les soirées, je sais pas.
Il le met titulaire.
Il peut faire guide, en tout cas.
On sait qu'en règle générale, il n'y a pas énormément.
S'il y a besoin de sortir à New York, tout, il peut faire guide.
Ah ouais, apparemment, il est très bon là.
C'est pas Max pour ça?
Jean-Louis, il peut faire des choses.
C'est Max, c'était notre Théo Hernandez à nous, à New York.
Ah oui.
En tout cas, j'étais meilleur que lui sur le terrain.
Sur le terrain, c'est bien que lui, il y a des choses que je fais pas moi.
Non mais c'est vrai, Koundé, bon ça on n'avait pas de doute, hein. C'est un fidèle, c'est un taulier pour Deschamps à droite.
Ah, excuse-moi, Lucas Digne, bon c'est vrai que les buts viennent de son côté aussi, hein, sur les centres en retrait, mais quand tu vois la fin de saison qu'il a eu à Aston Villa, quand tu vois Théo Hernandez, c'est deux dynamiques complètement différentes. Moi, excusez-moi, mais j'ai vu un Théo Hernandez en difficulté, avec le ballon, sans ballon. Alors, est-ce que tu peux tirer des enseignements, là, on l'a très justement dit, d'un match amical, quelques jours avant le début de la compétition? J'ai du mal à y croire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont perdu des points, et moi, Théo Hernandez, excusez-moi, messieurs, mais j'ai pas été convaincu.
Et tiens, on soulevait ça aussi, Jean-Louis, avec l'entrée de N'Golo Kanté, comme si c'était lui, le premier remplaçant naturel au milieu de terrain dans ce système-là, bien sûr.
Tu crois que c'est une indication, ça aussi, ou pas? Moi, je ne l'ai pas trouvé bonne, son entrée. Il a eu du mal à se mettre dans le rythme, il a perdu pas mal de ballons, alors que Manu Koné a été meilleur dans son entrée. Donc ça, je ne sais pas. Je pense qu'au milieu...
Pas titulaire, premier remplaçant, pour moi, il part loin.
Pour moi, il est deuxième remplaçant. Je pense qu'il est derrière Manu Koné avant.
Moi, je ferais jouer Tchouaméni, Manu Koné. Je pense que pour avoir un truc un peu plus défensif, il est probable qu'il mette Rabiot. Donc...
Tu l'as trouvé comment Rabiot ce soir?
T'as pas une indication, excusez-moi.
Bah, Rabiot, c'est toujours pareil, quoi. C'est quand le ballon arrive vers lui, c'est fait un peu narcolepsie pour moi. C'est faire. Moi, je me réveille dès qu'il rentre le ballon. Ça se fait. Bon. Passe sur Rabiot.
Il est pas remonté dans le
ballon. Il a gratté un ballon important quand même ce soir.
Je pense que vous avez l'indication. Enfin, quand tu fais rentrer N'Golo Kanté avant Manu Koné, c'est que peut-être dans la hiérarchie de Deschamps, à mon avis, il doit être devant, non?
Oui.
Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, Manu Koné devrait être titulaire.
Avant qu'on ait, je sais pas, le. Vas-y. Temps en tout cas, mais je pense que le dossier Cherki doit être ouvert. Parce que.
Ah, tu veux y revenir encore? Très bien.
Non, mais non. Moi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Partons dans l'idée qu'effectivement, c'est Olise qui jouera ce rôle-là.
Le numéro 10, on est d'accord.
Cherki, ce soir, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il montre? Le mec joue. Les ballons passent par lui. C'est le playmaker de la soirée. Il ne sort pas à la mi-temps. Il reste. Moi, j'adore ce genre de joueur. Il crée en permanence. Et quand je le regardais, j'ai essayé à un moment de faire une sorte de balance. Et je disais, bon allez, 70-30. Parce que d'abord, il met un but. Il donne toujours le sentiment qu'il peut percer une défense, inventer un truc. Et on aime aussi le foot pour ça. Et les Bleus ont été privés beaucoup trop longtemps de joueurs fantasy. Donc moi, j'aime cette idée-là.
Et après, évidemment, que sur la passe en retrait, à la moitié de la première période, il doit frapper. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut contrôler. Est-ce qu'il veut faire
une fin de frappe? Il fait une fin de frappe. Il veut mettre le défenseur sur les fesses.
Il veut emmener un peu le ballon semelle pour arranger un peu plus. Bon, bref, c'est un mauvais choix.
Ça ne changera pas. Il fera toujours des choses comme ça.
Exactement.
C'est sa nature.
Donc, il faut accepter sa nature. Mais l'équipe de France qui accepte la nature d'un mec à qui on donne des clés et tout, mais ça n'existe pas.
Si, je pense. Je pense que maintenant ça existe.
Même Zidane. Qui était un joueur ultra technique et tout,
c'est beaucoup plus épuré, ça n'a rien à voir.
Voilà, il était efficace. C'était un gars sérieux.
Oui. Mais Daniel, sur Cherki,
il y a des fleurs partout.
Vas-y, Jean-Louis.
Moi, je pense que c'est la vraie évolution de Deschamps dans sa façon de voir les choses. Sinon, Cherki, il l'aurait pas pris aussi longtemps. Il lui aurait pas passé certains matchs où il surjouait vraiment. Il y a un match au Parc des Princes où sa mi-temps, elle est affreuse, où il fait que des gestes techniques qui n'ont aucun sens, etc. Là, il a beaucoup épuré son jeu et je pense que Deschamps, il a accepté que Cherki pouvait lui amener des choses.
Bah oui,
et à mon avis, je vais dire, je me suis fait une raison sur Cherki. C'est-à-dire que sur une grande compète comme ça, tu peux pas changer foncièrement le joueur. Ça, c'est un truc de club, c'est un truc d'entraîneur qui va l'avoir tous les jours, etc. Donc, tu as des trucs à prendre de chez lui, tu as des trucs à prendre de Cherki. Et je pense que là, il a tapé à la porte sur la mi-temps qu'il a fait en disant je peux être titulaire s'il faut, la disponibilité, etc. Et au pire, il fera les fins de match, les 30 minutes où il faut aller mettre le feu dans l'équipe et ce sera super pour l'équipe de France.
Donc, pour vous, c'est un joker 20 minutes.
Bien sûr.
Pas plus, Max.
20 minutes, 30 minutes.
Tu peux pas le démarrer.
En règle générale, tu peux pas démarrer une compétition avec Cherki pour toutes les raisons et les facteurs qu'a donné Jean-Louis. Je suis entièrement d'accord avec toi. La compétition est tellement rapide.
Tu parles de quoi sur le déchet technique?
Disons que Cherki et Mbappé, ça fait deux joueurs qui défendent pas.
Tu ne peux pas prendre le risque d'avoir un point d'interrogation sur un joueur en début de cette compétition.
Et pourquoi t'auras un point d'interrogation?
Parce que Daniel, tu l'as très justement dit, il a fait une très bonne première mi-temps, ça c'est une chose, mais c'est donc complètement insuffisant.
Le foot aujourd'hui ne mérite plus de fantaisie.
Mais non, mais bien sûr, on est tous d'accord.
Aujourd'hui,
qu'on a envie de voir des mecs qui vont
probablement être le meneur de jeu de Manchester City. Là, cette année, il commençait à l'être. Donc, et il ne pourra pas l'être en équipe de France.
Mais ça ne veut pas dire
que c'est exceptionnel. Il n'était pas titulaire incontestable à discuter à la City.
Il n'a pas été titulaire. Je viens de dire qu'il n'a pas été cette année, mais petit à petit, il était en train de le devenir. Et logiquement, l'année prochaine, il devrait l'être. Donc, il peut l'être dans un club de première ligue, mais nous, en équipe de France, on ne peut pas jouer.
Risque comme ça de le lancer en pleine compétition, ouais, Coupe du Monde, alors que tu sais que c'est la dernière de Didier Deschamps, tu sais que t'as Kylian Mbappé, tu sais que t'as Ousmane Dembélé, tu sais que t'as Olise dans le même style,
mais je pense
en tout cas, je veux dire, en playmaker, et surtout, et attention messieurs, vous avez Mbappé qui défend très
c'est
peu,
ce que j'allais
si
dire.
En plus tu ramènes un Cherki qui défend pas, on connaît Didier Deschamps, on sait qu'il a envie de voir du football champagne sur sa dernière compétition, bah attention, il a envie de gagner quand même.
Pour moi, c'est ça le gros point.
Tu sais comment tu veux la gagner, la Coupe du Monde? Tu mets trois milieux de terrain, Cherki et deux attaquants. Et au revoir tout le monde. Et là, tu la gagnes.
Ah bon? Mais là, ça veut dire que si tu fais ça, tu te prives soit d'Olise, soit de Dembélé.
Bah ouais.
Tu la joues
en mode ADN Deschamps, tu la gagnes.
En tout cas, là où moi je suis d'accord avec Max, c'est que Mbappé et Cherki ensemble, pour Deschamps, ça fait trop. Déjà, quatre attaquants, c'est déjà énorme de les mettre, mais il faut des mecs qui défendent ils le font au club, comme Dembélé et Olise.
Vous répondez aux questions que j'ai posées. Parce que moi, quand je vois le match ce soir, plein de questions me sont venues en tête, vous y répondez, on ne pourra pas jouer comme ça.
Ah, je sais pas. Parce que la première mi-temps, on joue comme ça, et encore une fois, on concède pas tant d'occasions que ça. On en concède parce que Konaté, il a du mal contre le petit Diomandé.
Parce que ne poussait pas ses actions, a été très frileux. Étaient frileux, les Ivoiriens. Ils ont commencé à pousser un peu plus,
Moi, j'ai envie de le voir avec la grosse équipe du début à la fin du match. Voilà.
Faut qu'on parle de Kylian Mbappé également. Qui a joué ce soir 78 minutes. Qu'est-ce que je raconte?
Non,
45 minutes, il est sorti à la mi-temps. J'ai une mauvaise fiche avec les mauvaises stats là. Non mais vraiment, plus
surtout pas concentré.
Non vraiment, c'est n'importe quoi. Alors qu'en avez-vous pensé? Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu jouer depuis le 23 mai, il avait pas joué Kylian Mbappé. Son rendement, ses repères.
Le match contre le Brésil à Boston, il a été très bon. Là ce soir, il est moyen. Il est là, il est toujours très disponible, mais je l'ai pas trouvé transcendant ce soir. Non, j'ai pas vu des chose folle de Mbappé ce soir, mais j'ai pas vu un très bon Olise non plus ce soir.
Non. Bah, ils ont été,
je vous dis, offensivement, c'est Cherki qui a monopolisé toute l'attention et tous les ballons.
Parce que la Côte d'Ivoire était en bloc bas et qu'en règle générale, t'as besoin justement de joueurs qui sont en mesure de pouvoir bien gérer le ballon, c'est tout. Et Cherki, il est entre les lignes, il est capable d'orienter le jeu. On le sait que Kylian Mbappé, sa qualité.
Il est censé être un animateur.
On sait, ouais, mais il était plus sur la droite, c'est un peu compliqué justement. En mettant Cherki, tu te retrouves à mettre Olise à droite, ce qui est très très bien, parce qu'au Bayern Munich, ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que face à un bloc bas, c'est cette raison pour laquelle tu as vu Mbappé en difficulté, que tu aurais aussi vu sûrement un Ousmane Dembélé en difficulté. Voilà. Après, c'est des scénarios qui vont sûrement se répéter pendant cette Coupe du Monde. Donc, il faut que les Français soient prêts. Et je suis d'accord avec toi, Daniel. C'est là que Cherki va être important.
Oui, la configuration.
Mais commencer le match avec un Cherki titulaire, créant des équilibres. Attention, messieurs.
Bon. Concernant la défense centrale, je voulais en parler aussi. Le duo Upamecano Konaté, c'était la 10e fois dans leur carrière. Ce sera pas ça a priori, sauf si c'est compliqué pour Saliba. Upamecano déjà qui lui sera un taulier de ce mondial pour l'équipe de France.
Pour moi, il est
un retour en première période.
Pour moi, la deuxième période compliquée,
j'ai vu un moment s'abonner un ballon quand même.
Non mais Konaté, autant il pouvait marquer des points, autant il n'en a pas marqué. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, il se fait prendre de vitesse par Diomandé plusieurs fois, et en deuxième période, le but de Doué, c'est lui qui se rate. Donc pour moi, il y a un écart énorme entre les deux titulaires, Upamecano, Saliba et Konaté.
Et même avec le ballon, n'oubliez pas, Saliba joue normalement axe gauche, Upamecano à droite. Là, en faisant jouer Konaté, t'es obligé de mettre Upamecano à gauche. Bon, ça a été sur ce match-là, justement parce que la Côte d'Ivoire avait quand même très peu de pressing derrière avec cette défense assez basse, mais je pense qu'avoir un Saliba axe gauche qui est en mesure de pouvoir trouver des angles de passe et un Upamecano à droite, pour moi c'est la défense, voilà, c'est vraiment la base solide de cette équipe de France. Et c'est vrai que Konaté a perdu des points ce soir, Jean-Louis, je suis d'accord.
Bon, rendez-vous lundi soir à Villeneuve-d'Ascq, à Lille, Stade Pierre-Mauroy, France, Irlande du Nord. On devrait revoir les Parisiens un peu plus, hein. En tout cas les voir, on a vu que Zaire Emery ce soir notamment. Qu'est-ce qu'on attend? Dembélé peut démarrer, tu penses, ou sera trop proche encore de la finale, par exemple?
Non, je pense que Dembélé, Doué, ils peuvent commencer, oui. Je pense qu'on peut avoir l'équipe qui commencera contre le Sénégal, contre l'Irlande du Nord, en dernière répétition lundi.
Bon, voilà. Ce sera riche en enseignements là aussi, peut-être. Maxime et Daniel. Tiens, un mot sur une petite polémique, ou en tout cas, un petit point de tension entre la Fédé et les joueurs de l'équipe de France. Je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, Jean-Louis, sur les places attribuées aux familles des joueurs, en tout cas aux joueurs qui redistribuent après aux familles. Raconte-nous un peu ça, justement. C'est intéressant,
écoute,
quand même.
Donc, effectivement, là, il y a deux points de tension. C'est la négociation des primes que les joueurs voudraient plus élevées que ce qui est proposé, et l'histoire des places pour les proches. C'est-à-dire que d'habitude, il y a 4 places par joueur d'invitation pour les membres de la famille sur les grosses compètes. Là, ils ont dit qu'il n'y en a que 2 et vous avez possibilité d'acheter 6 places. Donc les joueurs ne sont pas très contents. Mais c'est la conséquence d'un truc que moi, je me pose la question depuis le mois d'avril. C'est le choix de cet hôtel en plein centre de Boston, le Four Seasons, qui coûte énormément, qu'ils ont décidé de privatiser entièrement, donc ça coûte très cher. Et j'ai l'impression que cette dépense-là doit être compensée un peu partout
sur
à la Fédé.
Sur les tickets.
Voilà.
Oui, ça raconte aussi peut-être l'état des finances de la Fédération
voilà, c'est ça,
de football.
Oui. Ouais, mais vu l'état des finances, est-ce que tu avais besoin vraiment de privatiser un hôtel dans le centre de Boston?
Il dit en quart pour être dans tes frais.
Demi.
En quart et objectif sportif, demi-finale minimum. C'est ça qu'il dit, non?
Ah, pour l'oseille, moi je
vois. L'oseille, il faut aller même en finale, j'ai cru comprendre.
Pour récupérer les frais sur les tickets, c'est moyen.
Tu perds de l'oseille en quart.
Objectif budgétaire, c'est quart de finale, c'est ça.
Bref. Je trouve ça moyen.
Bon, on va suivre ça. S'ils vont régler ces histoires de places, Julien Cazard, il n'y a aucun problème à trouver des places pour aller voir le PSG en finale, bien sûr, parce qu'il ne paye pas ses places, mais en revanche,
c'est
illimité. Bonsoir, Julien Cazard.
Parce que quand tu cires le Qatar, comme moi, comme d'autres, à un moment donné, à force, ça Il y a des récompenses.
C'est normal que ça finisse par.
C'est la moindre des choses. Franchement, j'ai eu tellement de bien du Qatar à toute période, moi. Coupe du monde, avant, après. Franchement, je méritais. Ce soir, nous faisons une spéciale affaire Xavier Dupont de Ligonnès et ça m'intéresse d'avoir l'avis de Daniel, spécialiste du complot. Daniel, à ton avis, quelle est ta théorie sur Xavier?
La théorie quoi? Vivant ou mort? C'est quoi ta théorie?
Ah voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel?
Il est vivant.
Merci. Et il est où? Au Texas.
Dans un monastère
au Texas. Bien sûr.
Au Texas.
Oui, oui.
Avec David Koresh.
Bien sûr. Il est dans là.
Il n'est pas mort.
Oui. Non, parce qu'il n'est pas mort. Il est planqué sous les cendres.
Ouais. Exactement.
Toi bien.
J'ai mes infos, moi. On me dit qu'il a été vu dans les Hamptons.
Ouais.
Patron de New York, c'est apparemment.
Il a les moyens.
Jean-Louis, merci. Bon retour.
Ciao tout le monde.
À très vite dans l'after. Merci Max, Shadow, merci Daniel. Dans un instant, les nuits du Casar enchaînées avec Julien Casar et Jean-Christophe Drouet.
RMC. L'after foot.